Salut à tous et bienvenue dans Opulence Podcast où aujourd'hui on ne décryptera pas l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Parce qu'aujourd'hui c'est une émission hors série. Oui, aujourd'hui on va pas parler de musique ni tout ce qui est entertainment dans la mode ou etc etc. Et aujourd'hui on va parler de communication et de marketing. C'est une matière que j'ai à l'école. Et en gros on a un projet où on avait 4 activités à faire. Et au bout de ces 4 activités, on doit faire un carnet de bord. Et du coup, ce carnet de bord, je le fais sous forme de ce podcast-là. Du coup, ça sera publié à tout le monde et à ma prof également. Et j'avais 4 activités à faire en lien avec le communication et le marketing. En fait, on avait 13-14 choix d'activités à faire et j'en ai choisi 4. J'ai choisi de parler de 4 campagnes de communication qui ont gagné un award aux Effie Awards. Faire une analyse de la série Emily in Paris, sa saison 1 et 2. D'écouter un podcast qui s'appelle Guerre de Business et se concentrer sur une des séries et en parler. Du coup, moi, je me suis concentré sur McDo et Burger King. Et après, j'ai fait une formation Google Ads et je vais vous raconter voilà, comment s'est passé ce carnet de bord. Bah, du coup, ces 4 activités-là, ça a pris à peu près un mois pour tous les faire. Il y en a qui étaient très longs, d'autres qui étaient beaucoup moins longs. Bah, j'ai regardé toute une série, en vrai, 10 épisodes de 40 minutes x 2 parce qu'il y avait 2 saisons. Guerre de Business, en vrai, c'était 6 podcasts de 40 minutes. Google Ads, c'est une formation qui est quand même assez longue. Et même en un mois, c'était un peu juste, hein. Et Effie Awards aussi, ça m'a pris pas mal de temps de voir un peu les campagnes, etc. Bon, c'était un peu le plus court aussi, des 4, mais bon, c'était un qui m'intéressait beaucoup. Et même, c'est des activités que j'ai choisies parce qu'en vrai, ça me représentait beaucoup ou ça me faisait un peu un clin d'œil. Je sais que les Effie Awards, moi, je suis un grand fan des Awards. Moi, tout ce qui est les Grammys, les Flammes, vous savez que j'adore ça, j'en ai déjà parlé dans des podcasts. Même par rapport au cinéma, les Oscars, les Césars, j'adore suivre ça. Même les Energy Music Awards, quand j'étais petit, je kiffais ça. Et du coup, voir un peu un award sur la communication et sur les campagnes publicitaires, franchement, bah, incroyable. Et je me suis dit que j'allais m'intéresser à y voir un peu qui a gagné, etc. Du coup, ça, on en parlera. Emily in Paris, je suis un grand fan de la série. Je regardais ça en 2021, si je ne me trompe pas. J'avais regardé la saison 1 et la saison 2, j'y avais trop kiffé. Là, j'ai regardé la saison 3, je crois que c'était l'année dernière. Et là, il y a saison 4 qui est là en tournage, etc. Et Guerre de Business, c'est une amie qui m'en avait parlé. Je trouve ça quand même assez intéressant de suivre un peu les concurrences entre deux grosses marques. Du coup, en gros, c'est bref, j'en parlerai après. Et Google Ads, je me suis toujours dit que ça pouvait servir parce que Google Ads, bon, je vais vous expliquer ce que c'est au temps voulu. Mais déjà, lors d'un stage, j'ai eu l'occasion d'utiliser Google Ads parce qu'on avait lancé une campagne dessus pour faire la promotion de notre site web, etc. etc. Et c'est un outil qui est hyper intéressant pour n'importe quel type d'entreprise. Je me suis dit qu'en vrai, faire une petite formation dessus, ça peut être que mettre bénéfique pour plus tard. Et franchement, c'était pas du tout un regret. Bref, je pense que j'ai commencé sur les Effie Awards. Après, bah, du coup, Emily in Paris, Guerre de Business. Puis après, finir sur Google Ads et vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Du coup, les Effie Awards, comme je vous ai dit, c'est une cérémonie de récompense qui récompense les meilleures campagnes publicitaires, pas des agences de communication en lien avec des marques. Du coup, les agences de communication, il y a Publicis, Buzzman, FIO, enfin bref, il y en a pas mal. Du coup, leur but, c'est des clients qui viennent à eux. Ils ont un... Comment on appelle ça? Et les clients qui viennent à eux parce qu'ils ont un besoin de lancer une campagne sur un produit, sur un service ou même sur leur marque. Du coup, ils arrivent avec un brief. Du coup, ils leur filent toutes les informations qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent que l'agence leur procure, leur produise. Et du coup, l'agence, après avoir fait des analyses sur le marché, etc., leur produise une campagne publicitaire. Ils se mettent d'accord sur le lancement, etc., etc., etc. Ça se fait très souvent et je pense que n'importe quel pub que vous voyez, bah, ça s'organise souvent comme ça, en tout cas pour les très grosses marques. Enfin bref. Et du coup, les Effie Awards, c'est sur plusieurs catégories. Il y a des catégories comme alimentation, distribution, les transports, sur l'énergie, etc., etc. Et je me suis concentré sur 3 campagnes à l'intérieur, celles qui m'ont un peu le plus frappé et que je trouvais assez intéressantes à analyser. J'ai du coup analysé le Bah, le celui qui a gagné le grand prix, le prix d'or, le grand gagnant, c'est Renault avec la campagne de la Mégane E-Tech 100% électrique qui a été faite par Publicis Conseil avec l'agence également OMD. Et je me suis intéressé à celle-là parce que bah, c'est le grand gagnant. Et c'est une pub qui n'avait pas forcément marqué, que je ne connaissais même pas en fait. Et je me suis demandé bah, qu'est-ce qui fait que cette pub a énormément fonctionné. Du coup, la Mégane E-Tech 100% électrique, c'est une voiture qui a été développée, enfin qui a été commercialisée en 2022 par Renault. Mégane, je pense que vous connaissez tous, c'est une voiture emblématique de Renault. C'est un peu la voiture de référence accessible pour la classe moyenne et que tout le monde. Je pense que vous avez tous vu une Mégane dans votre vie. Et en gros, ils ont lancé la Mégane E-Tech 100% électrique et. Pour la commercialisation, pour la compagnie, ils ont fait avec du coup Publicis et OMD une campagne qui s'appelle Mégane, la voiture qui dit au revoir aux chevaux. Et en gros, le spot TV, la pub télévisée, c'est une Renault qui traverse une ville, je pense aux États-Unis, une ville qui est entourée de chevaux. Et les chevaux sont en fait des citoyens, des citadins d'une ville. Et on trouve plein de types de personnes qui sont présentés par des chevaux, par exemple les influenceuses avec leur caméra sur des chevaux, les enfants qui sont dans un parc et qui jouent ensemble sur des chevaux, les businessmen qui sortent du travail sur leurs chevaux, etc., etc. Et en gros, c'est un clin d'œil par rapport à la Mégane qui est 100% électrique, et du coup, on dit au revoir aux chevaux, où là, on s'intéresse plus aux chevaux en vrai, tout ce qui est gasoil, etc. Et la pub peut paraître basique. Mais j'ai vu les commentaires en dessous de la vidéo YouTube que Renault a publiée. Et c'est affolant à quel point il y a de nombreuses personnes qui sont vraiment. En fait, c'est unanime. Ils sont tous fans de la pub. Et même si on peut se dire que c'est public, il n'y a que eux qui pourraient chercher à avoir une pub Renault. Mais il y a eu des retours excellents où des personnes ont vraiment été touchées par la pub, qui vraiment disent que par. La scénographie, la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est monté, la musique, etc. On a vraiment été touchés par cette pub. Non, vraiment, c'est impressionnant les retours qui sont vraiment positifs autour de cette pub-là. Et non, c'est fou. Et je pense que le succès de la pub vient aussi d'un contexte un peu économique. Après le Covid, il y a vraiment eu un. Voilà, un changement de mentalité sur la manière de consommer et également par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique, etc., etc. Et le fait que Renault vienne avec une voiture 100% électrique, surtout que c'est la Mégane qui est vraiment, comme je vous dis, une voiture la plus populaire en France et que tout le monde peut se l'offrir, on va dire. Enfin, c'est une voiture qui est assez accessible, qui n'est pas réservée à une classe assez privée, alors que d'habitude, les voitures électriques sont un peu une voiture haut de gamme que pas tout le monde peut s'acheter. Le fait que maintenant une Mégane soit électrique montre un peu une démocratisation de la voiture électrique et je pense que c'est ça aussi qui a aidé à ce que la campagne gagne ce grand prix-là. D'autres points intéressants, c'est également, enfin même d'ailleurs, ils ont même parlé un peu j'adore ce terme, de renaulisation, renaulution, pardon, qui fait référence à révolution, renaulution, ou même solution un peu. Où voilà, c'est la voiture électrique qui commence à prendre le devant. Autre que cette pub télé, il y a eu également une radio, des médias imprimés, une publicité numérique sur les sites internet, des campagnes télé. Il y a même eu un événement qui est le Renault Electric Horse, qui était là un peu pour renforcer l'image de la marque et même générer du buzz en vrai. Bon, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Moi, vous savez que je suis un grand fan de Beyoncé et que l'album Renaissance est mon album préféré. Et le fait que la campagne soit tournée autour des chevaux et que la parade soit Renault Electro Horse me fait vraiment rire parce que bah, Beyoncé, son album Renaissance, est un album house, électro, électronique, enfin bref, ce style-là. Et que l'era était tournée autour d'un cheval. Ouais, ça me fait rire. J'adore. Et je sais même pas quoi dire, j'adore. Et en plus, le même outre que l'image de marque, ça a hyper bien fonctionné. Où la voiture s'est vendue à plus de 15 000 exemplaires en 6 mois. Et Renault était loin de s'imaginer un tel résultat. On m'a dit que qu'ils avaient même pas ils ont ça ils ont ils avaient même pas prévu. Enfin bref, c'est incroyable. Et même ils ont eu de nouveaux clients en vrai. Il y avait 47% de leurs clients qui venaient de la concurrence et que même 75% étaient des nouveaux acheteurs de voitures électriques. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que, comme je vous l'ai dit, je pense que cette Mégane Renault permet une démocratisation de l'électrique et que plein de personnes qui ne pouvaient pas s'acheter de l'électrique parce que c'était trop cher, grâce à cette Mégane qui a un prix un peu plus réduit, peuvent se l'offrir. Et en plus, en même temps, ça ramène une image de marque, une meilleure image de marque, plus rajeunissante et au cours de. Voilà, des contextes sociaux et économiques. Enfin bref, super pub. Une qui m'intéressait également, c'était Arcunir et Burger King, qui ont gagné le prix d'or du petit budget opération spéciale. Et c'était une communication qui a été offerte, enfin offerte, donnée par Buzzman. Buzzman, qui est une agence de communication également. Arcunir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tutos du réseau social Twitter, qui est connu pour ratio des grosses stars. Ratio en vrai, c'est. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, ratio, c'est lorsque une personne tweet. Par exemple, moi je tweet, ouais, il fait beau aujourd'hui. Et qu'une personne en dessous critique mon tweet. Et il reçoit beaucoup plus d'engagement que le mien. Il a plus de likes. Souvent, on base de l'engagement sur les likes. Par exemple, moi je fais 3 likes parce que je dis que le temps est beau aujourd'hui. Il y a une personne aigrie, Louis, qui arrive et qui dit, ouais, il dit n'importe quoi. Et qui récupère 6 likes. Bah, les 6 likes fait qu'il me ratio parce qu'il a plus de likes que moi. Et bah, Arcunir, c'est un peu le roi de ça. Où il avait juste à écrire ratio et il avait plus d'engagement que le tweet au-dessus. Mais c'est des tweets qui ont été tweetés par des grandes personnes comme genre McFly et Carlito et même Emmanuel Macron et même Elon Musk. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, pour jouer de ça, Burger King ont décidé de s'associer avec Arcunir. Je crois que même pendant une campagne, Arcunir avait ratio Burger King. Et du coup, Burger King avait lancé un défi, ouais, s'ils arrivaient à faire plus de 100 000 likes, ce qui est, je crois, qui était à l'époque un des. Je pense qu'en France, on n'avait jamais réussi à avoir autant de likes. Ils avaient fait une opération spéciale entre les deux. Arcunir a eu ses 100 000 likes. Et en gros, ils avaient décidé de lancer le Arcunir Burger. Et je me souviens, le buzz que ça avait fait, c'était vraiment fou. Là, c'est dommage parce que si j'avais un peu plus de temps, j'aurais interviewé deux de mes amis parce que je me souviens, j'étais en vacances avec eux au moment de l'Arcunir Burger où ça a été annoncé. Et on sait que la tollée que ça, enfin, pas le tollé justement, mais l'engouement qu'il y a eu autour, c'était juste incroyable. L'interaction Burger King Arcunir était en juin et l'Arcunir Burger est sorti en septembre à peu près, à la rentrée. Et même l'opération avait super bien marché. Même si ça n'a pas duré longtemps ou à la fin du mois, il n'y avait plus les Arcunir Burger. Franchement, ouais, ça avait bien fonctionné. Il y a eu un très bon buzz. Et même, en fait, on se trouve que, outre le fait que la campagne est bien réussie, ça a ramené du bruit, je trouve que c'était hyper intelligent parce que je trouve que la cible des personnes qui s'intéressent au tweet d'Arcunir, qui sont souvent les jeunes qui sont souvent sur Discord, Twitos, Twitch, Twitter, etc., etc., c'est les grands consommateurs de Burger King. Du coup, c'était un peu congruent, en fait, ce côté d'association entre ces deux-là. Et en fait, c'est juste, ça a permis de renforcer aussi Burger King comme le roi de la communication. Enfin, je trouve que Burger King, c'est une marque comme Decathlon, qui sont vraiment connues pour leur communication sur les réseaux sociaux. Ils sont très forts par rapport à ça. Et juste, ce point com n'a fait qu'augmenter leur notoriété et qui a établi leur place de roi de la communication. Une dernière pub que j'ai pu analyser, c'est Emily in Paris et Map Baguette qui ont gagné le prix de bronze pour la distribution et restauration. Et ça a été fait par l'agence de com Starcom France avec TBWA Paris. Désolé, je ne connais pas trop cette agence-là. Et bon, je pense que je parlerai de Emily in Paris un peu plus en détail parce que je vous ai dit que je vais analyser la série. Mais la campagne FC Baguette Emily in Paris, c'est une campagne que j'ai pu vivre parce que j'ai travaillé à ce moment-là au McDo et en même temps je regardais la série. Et en gros, bah, la campagne est sortie du fait que Emily in Paris, bon, je vais vous l'expliquer encore plus en détail tout à l'heure, mais en gros, Emily in Paris, c'est une Américaine qui est venue en France qui s'appelle Emily et qui travaille dans une agence de com. Et l'agence de com, enfin, McDonald's dans la série avait fait appel à l'agence de com pour le lancement du Map Baguette. Et ce qui était assez marrant, c'est que du coup, il y a eu le lancement de la Map Baguette dans le film. Et en même temps, dans la vraie vie, à Paris, même en France, je crois. Et c'était à ce moment-là que j'étais fait au McDo. Et d'ailleurs, même dans mon McDo, ils avaient tourné une des scènes, mais je ne travaillais pas encore là-bas. Mais il y a une scène dans Emily in Paris qui a été tournée dans mon McDo. C'était Avenue des Champs-Élysées. Bref, incroyable. Et du coup, il y a eu ce lancement parallèle entre la série et le McBaguette en France. Et qui avait plutôt bien marché. C'était pas la première fois qu'ils sortaient le McBaguette. Le McBaguette était déjà sorti, je crois, en 2019. Enfin bref, avant la pandémie. Et c'était un peu le relancement de la campagne. C'était très assez par les touristes, je me souviens. Je me souviens qu'au début, l'engouement était folle. Le McBaguette fonctionnait très bien. En plus, Emily in Paris, c'est une série qui fonctionne bien. Et non, c'était assez intelligent de leur part. En plus, il y avait aussi la boîte de macarons qui allait avec, parce qu'il y avait un menu Emily in Paris avec la petite boîte de macarons, les frites, la moyenne boisson et le McBaguette. Et le McBaguette, il y avait deux formes, il y avait la moutarde et la béarnaise, si je ne me trompe pas. Et voilà. Très spécialité française, c'était vendu qu'en France. Voilà, la culture à la française. Donc maintenant, passons à la deuxième activité, Emily in Paris. Où je devais regarder la saison 1 et 2 et en tirer des analyses sur 4 points qui ont été la culture d'agence, le sexisme, le rôle des influenceurs et le gap culturel entre les Français et les Américains. Bon, avant de lancer sur cette analyse-là, je vais d'abord vous décrire ce qui est Emily in Paris et pourquoi j'ai choisi cette activité. Du coup, Emily in Paris, c'est une série qui retrace la vie d'une Américaine qui vivait à Chicago. Et qui travaille dans la communication marketing dans une agence là-bas. Pour une mission, parce que sa supérieure devait, elle, faire la mission en France, mais elle est tombée enceinte. Du coup, ils ont demandé à Emily de la remplacer. Et du coup, elle arrive en France, à Paris, et elle travaille dans une agence de com qui s'appelle Savoir. Elle est là pour redynamiser la marque et apporter un plus à cette marque-là. Et ils savaient qu'ils pouvaient faire confiance à Emily, enfin de base à Madeleine, mais du coup, à Emily, pour ça. Et du coup, pour cette mission, elle déménage un an à Paris, où elle s'installe dans un appartement, et on suit sa vie un peu rocambolesque dans la ville lumière, dans la ville de l'amour. Et en fait, c'est ça que j'adore la série. C'est que je me sens pas représenté, on va dire, parce que je pense que c'est pas le terme. Mais voilà, je suis assez adéquat avec la mentalité d'Emily Paris, où moi aussi, j'adore Paris. Moi aussi, je fantasme Paris depuis que je suis tout petit. Et même si j'habite à Paris, enfin même dans la région parisienne, voilà, j'ai toujours ce Paris and Dream, et elle aussi, elle voulait vivre son Paris and Dream, dans la vie de l'amour, de la lumière, de la mode, etc., de manière chic. Enfin bref, j'adore cette série. Et le fait que je devais re-regarder la série pour ce devoir-là, j'étais vraiment ravi. Et du coup, on suit son aventure dans l'agence de communication, où en gros, Savoir est une agence de com pour des marques de luxe. Et les marques de luxe font appel à cette agence-là pour leur établir des campagnes marketing et publicitaires autour de ça. Du coup, il y avait une marque de parfum, de vin, de champagne, pardon, de mode, etc., etc., etc. Super intéressant. Emily in Paris était un peu l'américaine qui arrive dans une société à part la française. Surtout que, bon, je vais en parler dans la culture des agences, mais d'ailleurs, je vais en parler maintenant, ouais. Les agences en marketing, enfin en tout cas reflétées dans la série, c'est des agences qui surtout dans le luxe, qui existent depuis les années 1990, qui sont assez vieillottes et qui ont envie de garder un peu cette tradition de culture à la française, où il y a une phrase qu'elle a utilisée, Sylvie, qui était du coup la chef de l'agence de com. Que oui, on n'est pas là pour ouvrir des portes, on est là pour en fermer et qu'on veut garder un côté exclusif. Et c'est un peu cette mentalité-là qu'a l'agence de com. Et c'est même, je trouve que dans les cultures de communication dans le monde du luxe, où c'est très privé, peu moderne, et ça relève beaucoup de points après, comme le sexisme également, ou voire peut-être le racisme, mais c'est pas été trop mentionné dans le film. Bon, en tout cas, le sexisme, on en voit beaucoup, j'en parlerai encore plus tard. Il y a aussi ce côté où le luxe doit être abstrait, il n'y a pas de sens. Là, par exemple, il devait tourner plus de parfum ou pour Lavaux, la maison Lavaux. Et en gros, c'est une femme qui marchait sur un pont, je crois que c'est le pont Alexandre III. Et elle se transforme en colombe. Et, enfin bref, voilà, c'est un peu une pub voilà, assez assez abstraite, où on ne comprend pas vraiment le sens, et c'est un peu ça cette culture d'agence-là. Et c'est une culture qu'elle n'a pas du tout Emily in Paris en vrai. Et c'est là qu'on voit un peu un gap, un écart entre la culture américaine et française, où les Américains, c'est du concret. C'est ouvert à tous, c'est du partage, c'est que tout le monde peut comprendre, etc. Alors que la culture à la française dans les cultures d'agence, c'est pas vraiment ça. Du coup, il y avait un peu ce truc-là, où on suivait un peu cette dysmorphie entre Emily qui donnait tout son bon vouloir pour travailler dans l'agence et qui recevait que des coups, ou elle subissait que des coups, des critiques, etc., etc., etc. Et là aussi, t'es rythmé par des épisodes d'amour entre son voisin, le charmant Gabriel, qui travaille également dans un restaurant, mais qui est en couple, mais pourtant drague Emily. En même temps, elle a un client qui le drague, elle a deux clients qui le draguent. Elle sort, elle flirte avec des. Enfin bref, voilà, c'est rythmé par des épisodes d'amour parce que bah, Paris, c'est également la ville de l'amour, quoi. Et pourtant, elle avait un mec là-bas, mais il l'a quitté lors de la séparation à Chicago, Paris, etc., etc. Il y a un point intéressant du coup oui, sur le sexisme qui est assez représentant, qui est assez représenté dans le film, dans la série. Même si c'est une série qui est hyper positive, qui est très mise en avant de Paris, limite superflue, parce que bah, du coup c'est tous les clichés de Paris. On voit que le côté positif de Paris en vrai. Mais il y a ce côté aussi où c'est un monde qui est régné par le sexisme et par l'homme un peu. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit directement dans la pub du parfum Lavo. Où du coup, c'est un peu, comme je vous l'ai expliqué, c'est la femme qui marche sur le pont Alexandre III. En gros, la femme, elle est nue et il y a quatre hommes qui sont autour d'elle et qui la regardent. Et c'est un peu bah, la femme qui est la muse des hommes. Et je trouve que même hormis la pub où c'était vraiment flagrant, parce que vraiment le titre de l'épisode s'appelait Sexe ou sexisme, je trouve que même dans toute la série en entier, je trouve que les femmes ont un rôle de muse où aussi bien Sylvie que Emily, on se rôle de l'homme peut faire, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple Gabriel, qui est du coup le voisin d'Emily, qui drague Emily mais qui est déjà en couple. Enfin même là, je trouve que y a que les hommes qui se permettent d'avoir plusieurs relations en même temps, où c'est les hommes qui guident un peu les relations et les femmes sont juste leur objet de désir. Sylvie c'est pareil, elle est en concubinage avec Monsieur Lavaux qui lui a une femme déjà et sachant que Sylvie est également mariée, enfin bref, il y a ce truc de oui voilà les hommes eux peuvent jouer sur plusieurs tableaux et pas les femmes. Surtout qu'à la fin, surtout par rapport à Émilie qui elle en soi a rien fait parce qu'elle ne savait pas que Gabriel était en couple etc. C'est toujours sur elle qui remet la faute et même elle se remet la faute, elle se dit que c'est elle qui va détruire le couple alors qu'en vrai c'est l'homme qui a engagé cette relation avec elle. Sachant que lui il savait très bien qu'il était en couple. Enfin bref, il y a ce côté un peu où domination de l'homme, etc., on le trouve beaucoup. Bah, le gap culturel, franchement, là, il y a énormément de choses à dire. Après, c'est vraiment très. Bah, pas superficiel, mais du coup, très tiré. Parce que c'est vraiment une agence à la française et ça s'accentue sur ça. Mais il y a tout ce côté où la France critique ouvertement les Américains et se sent supérieur à eux. Typiquement, il y a une phrase que j'avais notée qui m'avait un peu surpris, c'est genre un employeur de l'agence Savoir qui dit You have something to learn from us, en parlant des Français, but I'm not sure that I have something to learn from you, en mode oui, les Américains, ils ont tout à apprendre des Français, mais nous, on n'a rien à apprendre d'eux. Il y a ce côté un peu, oui, la France est supérieure aux Américains. Il y a toujours ce. Et c'est un complexe, je trouve, qu'en France, on a beaucoup par rapport à l'anglais tout court en vrai. Où il y a ce côté où on critique ceux qui parlent en anglais. Typiquement, bah, dès que quelqu'un trouve un mot en anglais, se mélange un peu en anglais, tout le monde dit excuse-nous, pardon de te déranger. Un peu ce mépris, voilà. Il y a un mépris souvent des personnes qui parlent en anglais, etc., etc. Bon, j'en souffre un peu des fois. Oh là là, oh là. Mais en vrai, par exemple, comme le mème de Zola. Où il parle en américain trop relou, trop relou, trop relou, qui a été repris dès que une personne parle en anglais, trouve pas le mot en français, tout le monde dit trop relou. Il y a ce côté de mépris qui est assez fort en France. Et je me sens, j'en parlais avec un ami qui est suédois, et que là-bas en Suède, il n'y a pas du tout ce complexe par rapport aux Américains. Ils assument amplement qu'ils ont été influencés par la culture américaine. Ils sont en limite fiers. Et je trouve que Sylvie est la représentation parfaite du rejet de la culture américaine qui, même si elle sait parler anglais et qui est même bilingue, elle a toujours ce dégoût, ce mépris pour les Américains. Et aussi, le gap culturel se fait par l'ostentation, peut-être pas l'ostentation, mais l'extravagance des Américains qui parlent fort, qui s'habillent en couleur, qui connaissent pas la sobriété. Et c'est Emily, elle le représente parfaitement ça aussi, où elle a toujours des tenues assez chic, extravagantes, colorées, qui parle assez fort, qui est toujours enthousiaste. Madeleine, alors là c'est encore pire. Alors que les Français sont très calmes, très pas ouverts, dans leur coin, etc., etc. Mais pourtant, ils sont même pas si timides que ça, parce que c'est des personnes qui parlent assez fortes également. Mais voilà, comparé aux Américains, c'est nous on critique l'extravagance des Américains. Il y a aussi ce côté où Émilie Paris, qui est encore la figure américaine, qui adore travailler alors qu'en France c'est tout l'inverse. Où après le travail on ne parle plus de travail, en vacances on ne parle pas de travail. Et c'est quelque chose que les Américains, eux, ne connaissent pas. Même par exemple, une fois dans la saison 2, Émilie Paris, elle a Saint-Tropez. Et il y a un de ses collègues qui lui dit, mais pourquoi tu me parles de travail alors qu'on est en vacances, alors que t'as un Saint-Tropez, profite de tes vacances, parle pas de boulot, etc. etc. Même si c'était le boulot qui l'avait amené à Saint-Tropez en vrai de vrai. Et elle, toute sa vie, est liée au travail. Ou surtout dans la saison 1, je trouve, ou même dès qu'elle sort le soir, elle fait une activité le soir, c'est toujours lié au travail, pour signer des contrats, pour raisonner des personnes, des clients à venir chez savoir, etc. etc. Et le dernier point à analyser qui est assez intéressant, c'est le rôle des influenceurs dans la série. Parce que Emily est une influenceuse, elle avait son propre compte Insta, Emily in Paris. Et c'est impressionnant comment le fait qu'elle soit influenceuse et qu'elle ait un réseau avec beaucoup de followers, enfin, même un développement de followers, l'a aidé à signer des contrats. Surtout que, par exemple, dans un des premiers épisodes, c'était une micro-influenceuse, elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais le fait qu'elle soit originale et qu'elle avait quand même une cible assez engagée, malgré qu'elle avait 20 000 followers, alors que d'autres influenceuses avaient genre 2 millions, elle pouvait apporter un plus à ces marques-là. Et ça montre que vraiment les influenceuses, enfin, même derrière, il y a une phrase qui m'avait un peu choqué dans cet épisode, où la directrice de la marque qui s'appelle Duré, vous ne voulez plus faire appel aux agences parce qu'elle disait que les agences étaient dépassées et c'est encore lié à cette culture des agences qui est assez vieille, vieillotte et que maintenant c'est les influenceuses qui ramènent de l'argent et de la plus-value aux marques. Et même les réseaux sociaux en fait au plus large qui ont pris le dessus sur les agences de marketing et que maintenant il y en a plein qui recrutent des community managers ou des spécialistes réseaux sociaux pour pouvoir développer leur carrière marketing. Bref, c'est une série que j'adore. Et honnêtement, avoir eu ce raisonnement et même cette perception un peu de cette série-là, parce que je suis allé beaucoup plus loin avant, je l'avais regardé en mode divertissement dans les premières fois que j'ai regardé. Et là, analyser une série, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je sais que je ferai ce travail beaucoup plus longtemps. Et voilà, comme j'ai dit, Emily in Paris, c'est une série que j'adore. Et je sais que la saison 4 va sortir, je pense, à la rentrée. Et septembre, j'ai vraiment hâte de la regarder. Toujours en lien. Avec McDo, enfin bref, j'ai l'impression que tous les thèmes ont un lien, parce que je parle de McBaguette, Emily Paris, et là je parle du McDo. J'ai regardé le podcast Les Guerres de Business, et je me suis concentré à la série McDonald's vs Burger King. En gros, Guerres de Business, c'est un podcast qui retrace une compétition entre deux grosses marques dans plusieurs domaines. Il y avait Gucci, Louis Vuitton, PlayStation, Xbox, et Xbox par exemple. Moi je me suis concentré sur McDonald's, Burger King. Et en gros, je vais vous faire un peu un résumé de tout ce qu'ils disent dans le podcast. C'est une des séries qui sont assez longues. C'est 6 épisodes de 40 minutes à peu près. Et là, c'était tout autour de Burger King. C'était super intéressant à écouter. Je passais mes nuits et mes voyages en transport pour écouter le podcast. Et vraiment, je me suis vraiment pris à l'écoute de ce podcast. Et bref, du coup, je vais vous raconter. Sur les grandes lignes, et après faire un peu une analyse sur le rôle de la communication dans cette guerre entre McDonald's et Burger King. Du coup, bon, c'est la restauration rapide des burgers. Je pense que vous connaissez absolument tous McDonald's et Burger King. J'ai pas besoin de vous le décrire. Mais je vais vous raconter un peu l'histoire de cette compétition entre ces deux grosses marques. Du coup, McDonald's, qui est l'enseigne américaine des burgers, arrive en 1948. C'est les premiers à arriver au monde, enfin le premier à être commercialisé quoi. Une chaîne de restaurants fast food et en 1948 il n'y en avait absolument pas beaucoup. Nous on était habitués au drive-in avec des serveuses comme dans les films en vrai, vous voyez les serveuses avec une petite jupe avec truc de milkshake qui tiennent les plateaux dans la main etc etc. Là McDonald's il n'y avait pas de serveur, il n'y avait pas de serveuse pardon, parce que c'était souvent des femmes. Il n'y avait pas de service, il y avait une petite carte avec que quelques sandwichs, quelques frites, et chaque employé avec sa tâche. Un employé en grill, un employé au milkshake, un employé caisse, un employé dans l'un, il bougeait pas. Il n'y avait pas ce truc où il y avait le cuisinier qui pouvait servir les plats. Et c'était quelque chose qui était assez unique à l'époque. Et ça a marqué un gros coup et ça avait plutôt bien fonctionné à l'époque. Et d'ailleurs, il y a même un monsieur, Monsieur Croc, qui a décidé du coup de développer un système de franchise un peu partout aux États-Unis. Il avait eu plus de 2,6 millions de dollars. Il a décidé de créer plusieurs franchises aux États-Unis, de McDonald's et a développé la marque. Pendant ce temps-là, en 1953, il y a Burger King qui arrive sous le nom de. Le nom m'a fait trop rigoler, je suis trop désolé. Insta Burger. Puis après, ça devient Insta Burger King. Bref, trop moche le nom. Ça arrive en 1953, mais le succès est un peu moins fort que ça. C'est pas une marque qui fonctionne énormément. Mais avec la création du Whopper, qui est un burger XXL avec deux sandwichs, là, Burger King commence à se faire un nom. Enfin, Insta Burger King. Et même le Whopper devient un best-seller assez rapidement. Du coup, à partir de 1961, il y a même eu un autre concurrent qui s'appelait Burger Chef, qui lui avait 72 franchises, alors que McDonald's avait 200. Et si je ne me trompe pas, je crois que Burger Chef et Insta Burger King se sont alliés et sont devenus Burger King à partir de 1973. Mais ça, j'en parlerai après. Du coup, la communication dans le développement de ces deux marques a vraiment été quelque chose d'important. Déjà, bah, si vous voulez développer une entreprise, vous êtes obligé de faire de la communication pour que les gens sachent sachent que votre marque existe. Faire connaître la nouveauté. McDonald's l'a vite compris, ou même la communication, même si elle n'était pas forcément nationale. Rien que dans le fait d'avoir une petite carte avec des produits clairs et un best-seller, même pour Burger King, montre que vraiment la communication c'est vraiment important, même pour informer et voilà, faire connaître les nouveautés. Et le point de rivalité premier était les burgers, où c'était vraiment le point de guerre entre les deux enseignes qui avait le burger un peu le plus iconique. Il y avait le Whopper chez Burger King. Et le Big Mac qui est sorti en 67 et qui a été directement un des best-sellers de McDonald's. Et que même Big Mac représentait plus de 20% des ventes des burgers chez McDonald's, ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment incroyable. Le nez de la guerre aussi s'est fait par l'extension internationale. Les Burger King et pardon, McDonald's ont été les premiers à s'être implantés à l'international, au Japon notamment. Et du coup, pareil. Si vous voulez vous implanter dans un nouveau pays, vous avez besoin de communication, de marketing pour le faire. Et malgré le fait que le Japon soit un nouveau marché qui ont une culture assez différente des États-Unis, le Big Mac est quand même resté un best-seller là-bas et qui a très très bien fonctionné, montrant que du coup le Big Mac est un produit qui plaît à l'international. Ils ont pu encore se développer dans énormément de pays jusqu'en 1991. Ils étaient un peu implantés dans plus de 50 pays, dont notamment l'URSS à l'époque, où ils ont, je crois qu'à Moscou, il y a eu le premier McDonald's, qui est vraiment incroyable, et qui était vraiment, bah voilà, une entreprise américaine dans un pays soviétique. Je pense qu'à l'époque, c'était vraiment inimaginable, et le fait qu'en 1989, il y ait un McDonald's là-bas, fut vraiment quelque chose d'important. Aussi, la rivalité de ces deux enseignes s'est faite par la mise en avant des singularités entre McDonald's et Burger King. Fallait se mettre en avant, et ça grâce à la communication. Burger King le savait, ils avaient bien analysé les préférences de leurs consommateurs, et en fait, ils ont remarqué que malgré le Whopper qui était un sandwich qui fonctionnait très bien, ils ont remarqué que leurs clients adoraient la personnalisation, retirer le sandwich, retirer les oignons, rajouter une tomate en plus, etc. etc. Ils ont vraiment joué leur communication autour de ça, sur la personnalisation de leur sandwich. Et ce que leur a permis d'un peu de remonter la pente, même si bah, McDonald's était toujours les leaders en burger, Burger King essayait de relever la pente. Et je pense que c'est le point le plus intéressant, mais le nerf de la guerre entre Burger King et McDonald's, c'est pour moi les publicités comparatives. En fait, quand je pense à ces deux marques et au marketing, je pense directement aux publicités comparatives où surtout Burger King ont toujours aimé faire ça. Rien qu'à l'époque, dans les années 1990, ce qui leur a valu d'ailleurs plusieurs procès, Burger King adorait les pubs comparatives entre McDonald's et Wendy's. Et d'ailleurs, ces deux-là se sont énervés. Ils ont décidé d'attaquer en justice Burger King. Et ironie du sort, c'est Burger King qui a toujours gagné. Et en plus, ça ramène un peu aussi de la pub. Parce que du coup, ça fait la une des journaux. Burger King a gagné le procès contre McDonald's. Et bref, ça fait la bonne pub pour la marque. Et même, je trouve qu'à notre époque, surtout il y a 7 ans maintenant, ouais, en 2016-2017, je me souviens des pubs Burger King qui montraient qu'il y avait un McDo à 200 mètres, bah Burger King à 600 mètres. Donc même si c'était 400 mètres de plus à faire, si c'est pour un Burger King, franchement, je fais ces 400 mètres en plus. En bref, ils avaient vraiment une campagne publicitaire sur ça et c'était super marrant. Ils ont toujours aimé faire ça aussi bien à notre époque-là que dans les années 2000, 1999, etc., etc. Et donc oui, la communication entre de ces deux marques, ils ont toujours ramené une plus-value, et même une plus-value que même les produits des fois ne suffisaient pas. C'est grâce à la communication que les personnes se sont intéressées au Burger King, à l'image de marque de Burger King et de McDonald's. Ils ont toujours joué sur ça, et même, je trouve que même la communication a pris une place beaucoup plus importante que les produits chez McDonald's et chez Burger King. Ou même si un nouveau produit sort, c'est grâce à la communication qu'il y a autour qu'on a vraiment envie de manger ce burger-là. Bref, c'était super intéressant et j'étais vraiment content de connaître ces deux mondes-là. Surtout que moi, le monde de la restauration rapide m'a toujours passionné. Et bref, pour la dernière activité, et après j'en ai fini, j'ai fait une formation Google Ads. Google Ads, je pense que vous connaissez tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous expliquer. Vous voyez, lorsque vous êtes sur Google et que vous tapez n'importe quelle phrase, mot dans le moteur de recherche, il y a souvent des pubs sponsorisées, soit des displays, soit même des recherches sponsorisées. Par exemple, vous tapez acheter un vélo et vous avez des marques qui arrivent en premier, comme par exemple Decathlon, le magasin de vélo juste à côté de chez vous, etc., 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 etc. Et bien, tout ça est organisé grâce à Google Ads, où chaque client, chaque concurrent font des enchères sur des mots-clés, sur des mots à trouver, sur des barres de recherche pour maximiser leur place dans les barres de recherche et être le plus haut possible. Parce que lorsque vous tapez ou cherchez quelque chose, soit vous cliquez vers le premier lien ou le deuxième lien, vous n'allez pas tout en bas. C'est ce que les enchères Google Ads essayent de faire. Et du coup, tu as une formation tout autour de ça qui était super intéressante. Je l'ai démarré le 1er mars à peu près. J'avais commencé par le display. Du coup, le display, c'est toutes les vidéos YouTube, la catégorie shopping également dans Google, les petits carrés où on voit un peu une petite pub image et tout, que vous voyez quelquefois dans les moteurs de recherche. Bon, il y a un peu moins maintenant, etc., etc. Et comment bah, maximiser ça et avoir la meilleure campagne Google Ads grâce au display. Je devais faire pour les displays et pour les recherches. C'était d'ailleurs en français le cours, mais le test, parce que oui, à la fin il y a un test, et l'évaluation était en anglais. Oh là. Je vais pas vous décrire à 100% tout ce que j'ai fait, parce que sinon c'est hyper long, surtout que là j'ai quand même assez parlé. Mais ce qui était vraiment intéressant par rapport à cette formation-là, même si c'était assez long, c'est qu'il y avait beaucoup de cas pratique, on va dire, où outre que le cours direct, d'ailleurs, le cours de display était totalement en texte et le cours de recherche, il y avait quelques petites vidéos introductives et après c'était du texte, des cours avec des petites animations, etc., etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était un espèce de voyage où ça se faisait chapitre par chapitre, chapitre par chapitre. Du coup, moi j'ai essayé de faire un gros chapitre en une journée et en gros, il y en avait à peu près 8. Du coup, je passais. Voilà, une semaine sur un chapitre, à peu près. Avec des sous-chapitres à l'intérieur qui avaient des objectifs clairs. Par exemple, un qui m'avait assez marqué, c'est d'atteindre vos objectifs commerciaux grâce à Google Ads, en sachant quel type de display vous allez utiliser pour votre campagne. Si vous allez plutôt opter pour la recherche, plutôt la vidéo, plutôt le shopping, plutôt le display, etc., etc. Identifier les types de campagnes, les enchères automatiques, les ciblages automatiques, savoir quel type d'utilisateur vous pouvez toucher grâce au Google Search, grâce au Google Display. Voilà, c'était assez complet, assez long, mais super intéressant. Et à la fin, il y avait une évaluation. L'évaluation qui avait, je crois que Google Display, il y avait combien de questions? Il y avait plus d'une 115 questions. C'était super long, mais vous avez 1 heure et demie pour le faire. Du coup, vous avez à peu près 2 minutes par question, ce qui est totalement faisable. Et j'ai tout fait en 40 minutes. Et Google Display, c'est un peu plus court, il y avait 50 questions. Mais là aussi, on avait encore 70, 90 minutes pour le faire. Et par exemple, le type de questions que j'avais, comme je vous ai dit, c'est en anglais. Et c'était marrant parce que des fois, il y avait également des études de cas dans les questions. Mais par exemple, le type de questions que j'avais, c'est genre. Et il y avait des questions, par exemple, Brian's desired audience isn't covered by the segments in market audiences offers. What other suitable options Brian could use to help him influence potential customer consideration? Et en gros, c'était un QCM. Des fois, il y avait des questions à plusieurs bonnes réponses qui étaient possibles. D'autres, il n'y avait qu'une seule bonne réponse possible. Et tu avais 50 questions comme ça. Ou comme. Tu avais 50 questions comme ça. Et pour avoir la certification, vous devez avoir 80% de bonnes réponses. Score que j'ai réussi à atteindre pour les deux cas. Je suis assez content. Je vais vous mettre les certifications que j'ai reçues dans le podcast. Si vous le voyez en mode format vidéo, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez voir les certifications que j'ai eues. En plus, franchement, j'ai eu des bons scores. Hein. Je suis très très content. Mais après, j'ai pris beaucoup de temps dessus. Mais voilà, j'ai eu 80. Je veux dire, j'ai eu combien pour chacun? J'ai eu 98% pour le display, ce qui est vraiment incroyable. J'étais très content. Et pour le search, je crois que j'ai eu 94%, si je ne me trompe pas. Ce qui est plutôt bien aussi. C'était super long. Le podcast est super long. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est un peu mon petit droplet. C'était quand même un projet qui m'avait énormément plu. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de savoir ce type de projet parce que ça sent un peu des cadres habituels ou des projets groupes où il fallait faire des exposés, etc., etc. Là, c'était vraiment un travail personnel qui, je sais, peut avoir un impact assez positif sur aussi bien sur ce qu'on va faire plus tard. Ou même côté personnel, en vrai, ça nous sert de découvrir d'autres choses, même dans le monde des podcasts, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment. Même les lectures, j'aurais pu lire des livres qui m'auraient vraiment intéressé, ou même des documentaires, ou même des films. Bon, là, j'ai choisi du coup ce qui m'intéressait en premier lieu, mais il y avait une ouverture aussi qui était vraiment possible et c'était vraiment super intéressant. Du coup, bah, je remercie ma professeure Eva Delacroix et à Amélie Loriot qui va écouter ce podcast. Mais vraiment, c'était super intéressant et je suis très content d'avoir pu faire ça. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de podcast. Mais là, je vous promets, je fais mon grand retour très bientôt. Il y a des épisodes que j'avais un peu tournés, mais que j'ai un peu pu monter, sur Kanye West notamment, ou les Grammys, je vais essayer de les publier. Mais voilà, je sais qu'il y a un prochain épisode sur Beyoncé qui va arriver, et plein d'autres encore. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!